Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour Un Masque et la Plume, consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec un plateau très disco, composé de Sophie Avon, de Sud-Ouest, de Michel Simon, de Positif, d'Éric Neuhoff, du Figaro, d'Alain Rioux, de l'Obsé du Vélo Cycloclub de Saint-Mandé pour parler de Dalida, mais aussi de Chet Baker, et des films Naissance d'une Nation, The Last Face, Jamais Contente, Corniche Kennedy, La Communauté, dans le courrier de la semaine. Oh là là, les loups sont entrés dans le courrier du Masque et la Plume. Grande, grande colère des auditeurs. Frédéric Mahler a été très triste d'entendre Daniel, Xavier, Pierre, Jean-Marc ironiser sur le très beau film de Jean-Michel Bertrand, La Vallée des Loups, où les amoureux de la faune sauvage retrouvent enfin une image juste de la nature. Vous êtes trop citadins. Jean-Philippe Grillet de Barcelonnette, vos propos méprisants m'ont choqué. Avec le loup, c'est la beauté du monde que Bertrand met en scène. Ce sont les questions de la relation entre humain et nature qu'il pose. Je précise que je vis dans une vallée où les loups sont nombreux. Patrick Roche dit, il faut savoir se mettre en équilibre avec le monde dont nous sommes issus, la terre. Les gens comme Jean-Michel Bertrand ont cette humilité et cette passion de la vie, mais ça vous dépasse et je vous plains. Olivier Berthelot a été absolument hébété d'entendre vos propos sur La Vallée des Loups, superbe film où rien n'ait été écrit à l'avance. Jean-Pierre Blanchier, choqué, blessé même par la manière désinvolte et méprisante dont vous avez traité La Vallée des Loups au Masque et la Plume, un film avec des images magnifiques, un vrai sujet, une vraie passion, avec une quête et de vraies questions. Ou encore Annick Lemeuvel s'étonne que la beauté des images ne vous ait même pas touché et préconise aux critiques du Masque et la Plume d'aller arpenter à l'automne les sentiers du Chanceur avec un bon sac à dos, une paire de jumelles et une bonne dose de curiosité et d'humilité face à une nature sauvage. Éric Mouzin de Paris s'énerve. Regardez plutôt les films Disney sur votre écran plat et laissez-nous le plaisir du cinéma. Madame Ivaniec, vous êtes passée complètement à côté du film et c'est dommage pour vous. Le loup n'est qu'un prétexte magnifique, il est vrai, pour filmer des animaux rares et nous offrir des paysages d'une beauté à couper le souffle. Lise Sarrazin demande aux critiques du Masque et la Plume, avez-vous déjà dormi en bivouac, ne serait-ce qu'une seule nuit, comme Jean-Michel Bertrand l'a fait, dans les mêmes conditions? Si en tant qu'adulte, nous ne savons plus nous émerveiller d'un écureuil, alors il est certain que l'enfant intérieur est en péril. Critiqué, mais avec cœur et intelligence, nous sommes tellement nombreux à vous écouter. Et pour finir, c'est une morale de l'histoire qui est signée Luna Robert. Vous êtes devenue au masque des animaux coupés de la nature, des poulets en batterie. Nous avons un courrier, mais absolument unanime, pour reprocher aux critiques du Masque et la Plume de ne rien comprendre à ce qu'est la nature. Mais je pense que ça vous concerne aussi, et pas simplement à l'équipe précédente. Naissance d'une Nation, c'est le film son premier que consacre l'acteur Ned Parker, comme le titre l'indique, aux prémices sanglantes des États-Unis d'Amérique. On est à peu près une trentaine d'années avant la guerre de Sécession, avec Ned Parker dans le rôle de Nat Turner, cet esclave prédicateur aussi afro-américain, né en 1800 et pendu 30 ans plus tard. Il avait conduit la Bible à la main, une révolte dans les plantations de coton de Virginie qui fut réprimée avec une violence inouïe. Le film d'ailleurs est interdit, je crois, au moins de 12 ans, d'après ce que j'ai compris. Quant à Ned Parker, eh ben, je parle de l'acteur, hein, il s'identifie à son personnage avec un certain lyrisme, même mystique. Parfois aussi avec un contentement de soi qui peut paraître un tout petit peu gênant, mais ça, c'est un sentiment personnel. Éric, as-tu apprécié Naissance d'une Nation?
Bah, j'ai regretté de ne pas avoir moins de 12 ans, comme ça, j'aurais évité. On m'aurait empêché d'entrer, parce que comme tu dis, c'est pas qu'il s'aime bien, mais il s'adore, ce film.
Il s'adore, oui.
Et il se filme sous toutes les coutures, et c'est un film qui fait à la fois dans le lourdeau, la vraie balourdise, Et dans le sulpicien.
On pourrait même dire dans le supplicien.
Oui.
Qu'est-ce qu'on en prend?
Oui, parce que sur cette révolte d'esclaves, on a quand même droit à des images insensées. Un épi de maïs qui se met à saigner, un papillon qui vient se poser sur la chemise d'un pendu, et à la fin, on a même carrément un ange. Alors là, c'est christique. Du coup, tout ça devient tellement amidonné, propre, qu'on n'y croit pas une seconde, alors que c'est tiré d'une histoire vraie. Et à ce propos, il vaudrait mieux relire le roman de William Styron, Les Confessions de Nat Turner, qui faisait du personnage un être beaucoup plus compliqué, contradictoire, alors que là, c'est carrément un saint, même pas laïque, puisqu'il a tout le temps la Bible à la main. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cet esclave est embauché par ses maîtres pour lire la Bible et calmer les autres esclaves. Et c'est ça qui est assez étrange. La grosse bêtise du film, c'est que tous les blancs sont tarés, dégénérés, alcooliques. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Et on a envie de dire ben, pourquoi ils ne se sont pas révoltés plus tôt. Ils auraient dû les égorger tout de suite. Et on bascule à la fois dans l'image d'Épinal et dans le gore tout d'un coup. Non, c'est un film très, très raté. Ce sujet-là n'avait pas mérité ça.
Et qui dure 2 heures.
Et en plus, depuis, j'ai appris que le metteur en scène avait été accusé de viol.
Il a été jugé même en 2001 pour le viol d'une étudiante, effectivement.
Avec son scénariste.
Oui, mais sauf que
avec
là.
Avec le scénariste.
C'est pas notre boulot de critique d'en appeler à la justice.
Il est pas
pour parler du film. C'est pour ça que je l'ai pas évoqué.
Oui, mais le film est tellement putassier que c'est.
Mais
pas
ça m'étonne
mal
pas d'Éric
ça.
Neuhoff de chaque fois de pouvoir sortir les dossiers.
Même il est question d'un viol aussi dans le film, quand même. Bon. Enfin, bref.
Ah bah oui,
mais non, enfin, mais tu as raison, c'est bon, pas notre rôle.
Alain.
Oui, c'est un film qui a une grande ambition, puisqu'il s'appelle « Naissance d'une nation ». C'est censé être exactement 100 ans plus tard une réponse au film de Griffith. Mais malheureusement, il est vraiment pas du tout à la hauteur de cette ambition. Et Eric a tout dit, c'est exactement ce qu'a dit Eric. Il y a quand même, je sauverais 2 scènes. C'est-à-dire, il y a une scène, pas pour la mise en scène justement, mais pour ce qui est dit. C'est-à-dire, il y a une scène où on prend la Bible et où on voit qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut. Exactement le contraire, c'est-à-dire que Nat Turner l'utilise pour la bonté et son contradicteur l'utilise, enfin, pratiquement les mêmes mots, les mêmes paraboles. On leur fait dire ce qu'on veut. Moi, j'ai tendance à me méfier un peu des religions et je trouve que pour ça, c'est assez intéressant. Et puis, enfin, me méfier des Bibles en général et des Corans. Et puis, il y a quand même un beau plan qui est le plan de Théodore de Banville, vous savez, c'est-à-dire les pendus, l'arbre aux pendus, qui est une assez belle chose.
Oui, enfin, tu ne nous as pas convaincus davantage, Sophie.
Je ne vais pas essayer.
Oui, je ne vais pas vous convaincre plus parce que je trouve le film vraiment raté. Déjà que le type a pas l'air follement sympathique, en effet, il a un égo démesuré. Il dit, je vais réécrire d'un point de vue des Noirs le film de Griffith, donc je nomme mon film de la même manière, mais pour un catéchisme, quoi, pour quelque chose. Chose qui est académique, qui est, je trouve que c'est un film édifiant, mais au sens le pire du terme.
Oui,
quoi.
Mais édifiant, mais vain. Ça ne sert pas le propos.
Absolument pas. Et alors, ce qui est peut-être pire que tout, c'est que ces personnages, c'est des Noirs avant d'être des êtres humains, quoi. Et évidemment qu'ils parlent de l'esclavage, évidemment que, mais ils sont même pas réduits à leur condition d'esclaves. C'est pire que ça. Ils sont Noirs avant d'être des êtres humains. Et chaque fois qu'il essaie de les humaniser, de leur donner une humanité, il bâcle. Ça l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui est édifiant, c'est le catéchisme, c'est le côté avec la musique emphatique et tout ça. Donc au bout d'un moment, ça devient vite insupportable, d'autant que le dolorisme du film, on avait reproché à Steve McQueen, je me souviens de ce dolorisme, mais au moins Steve McQueen, il avait cette formidable...
C'est un génie à côté.
Mais non seulement ça, mais je me souviens que le film, moi j'avais été partagé, mais en même temps il avait ce point de vue génial, de renouveler le point de vue, ne serait-ce qu'en allant chercher un personnage qui était libre au départ et qui était un noir, mais qui était libre, donc c'était vachement intéressant. Là, il nous raconte la même histoire, mais mal, quoi. Donc, si c'est pour...
Bon, Michel.
Oui, c'est vrai que c'est une réponse à Griffith. L'auteur, Ned Parker, qui est producteur, scénariste, interprète principal, à mon avis, il s'identifie à son héros, qui est l'instrument de Dieu. Je crois qu'il se prend vraiment pour l'instrument de Dieu lui-même. Et il n'a pas du tout les moyens de son ambition. Et je trouve même que c'est un film extrêmement dangereux, parce que c'est un appel au meurtre, ce film. C'est-à-dire que c'est l'inverse du film de Griffith, qui lui aussi était un appel au meurtre, avec l'exaltation du Ku Klux Klan. Bon, c'était, du point de vue du langage cinématographique, un chef-d'œuvre, les fondements presque de l'art cinématographique, indépendamment du côté épouvantable du film de Griffiths du point de vue racial. Mais c'est l'inverse, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que là, ce n'est pas les Noirs qui sont tous présentés comme des bêtes sauvages, ce sont les Blancs. Et il appelle à l'extermination. C'est vraiment un film de vengeance. Et la grande supériorité, je ne veux même pas les comparer, de 12 Years a Slave, c'est que 12 Years a Slave était un constat d'abord magnifiquement filmé de la condition d'esclave telle qu'on ne l'avait jamais vue à l'écran, mais jamais Steve McQueen ne demandait qu'on massacre tous les Blancs. Ici, c'est vraiment un appel au meurtre. C'est un film répétitif, la musique est atroce,
la musique est insupportable.
C'est un film vraiment, vraiment non seulement raté, mais je crois extrêmement nocif. Et les Noirs ne sont pas plus intelligents que dans le film de Griffith. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les personnages des Noirs sont montrés sous un jour intelligent, sensible, etc. Ce sont purement des stéréotypes.
D'une nation, c'est Ned Parker. Je crois que personne n'osera le défendre. Dans la série de ce soir, c'est pas la fête du cinéma américain. On va aller vite sur The Last Face, qui est un très long film de Sean Penn, 2h10, avec Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos, Jared Harris, Jean Reno, un film qu'on a vu à Cannes. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne m'en suis pas encore remis, où il a provoqué des rires, mais des rires de gêne, que j'avais rarement entendu.
Pas seulement.
L'histoire se passe en Afrique, dans un pays déchiré par la guerre et décimé par le sida, et on est convié à assister à l'histoire d'amour, mais torride, un peu suante, il faut dire, ça c'est le climat, entre deux médecins, le docteur espagnol Javier Bardem et la patronne sud-africaine d'une ONG, c'est Charlize Theron. Alors je laisse de côté l'inénarrable Jean Reno, qui a un rôle de genre French Doctor, mais j'ai remarqué sans Christian Clavier, c'est ridicule, enfin il y a quelque chose qui manque au film.
La goutte de maïs manque.
Voilà, à chaque plan, et dès le préambule, il nous est rappelé de manière assez obscène, d'ailleurs je crois même dans mon souvenir, c'est presque le préambule écrit du film, nous a rappelé que l'amour, c'est aussi la guerre, et d'ailleurs inversement, avec des phrases d'anthologie. Il y en avait une que j'avais notée à Cannes, c'est une réplique de Charlize à Ravière, ce n'est pas parce que tu as été à l'intérieur de moi que tu me connais.
Ouais.
Je l'ai épinglé au-dessus de mon lit, ça. Et je me souviens aussi à Cannes du titre de Libé, le lendemain de la projection, qui était « Un nouveau drame pour l'Afrique ». Et c'était pas totalement faux. Personne va tenter de sauver ce film, si
oui,
Michel.
À Cannes, ça a commencé par le pré-générique, où déjà, à la fois les huées et les éclats de rire se mélangeaient.
C'est cette phrase sur l'amour et la guerre.
Voilà, hein. C'est-à-dire, la violence de la guerre n'est comparable qu'à la brutalité des rapports entre un homme et une femme qui s'aiment d'un amour impossible. Ouais. Déjà, ouais. Ça donnait le ton. Et évidemment, on était stupéfaits d'abord de voir une telle nullité en compétition, alors qu'on avait refusé Bellocchio, on avait refusé Pablo Larraine pour Neruda. Enfin, il y avait des films magnifiques qui était exclu, et de voir ce film terrifiant, je veux dire, d'une nullité et vraiment de clichés pas possible, et une mauvaise action. C'est différent de Birth of a Nation, mais c'est le même genre de choses, c'est-à-dire que c'est un film qui se retourne, c'est-à-dire qu'on a honte de voir les problèmes de l'Afrique traités dans une mise en parallèle entre un amour torride et puis le massacre des pauvres Africains.
Sophie.
Et puis, en plus, la façon dont il montre de manière obscène, alors là, pour le coup, la représentation de la souffrance, et ça se libère. C'est une guerre réelle. Ce sont quand même des choses qui sont arrivées. Quand on se pose la question de la représentation de certaines guerres, j'ai pas revu le film, j'ai pas eu le courage de le revoir, j'avoue. Hein, alors que les films de Cannes, en général, on les revoit parce qu'on sait qu'il faut quand même les.
2h10.
Là, c'était pas possible. Mais j'ai encore en mémoire les deux plans, ces deux plans affreux qui sont cette masse de corps au-dessus desquels volaient des mouches et c'est des cadavres. Et c'était vraiment d'une obscénité absolue. Et les tripes sur les barbelés. Enfin, il y avait déjà une façon, comment Sean Penn, qui est quand même entouré, comment personne n'a pu lui dire lui expliquer qu'on représente pas comme ça la souffrance. Enfin, je veux dire, c'est une honte à faire aux morts. Enfin, quelque chose d'évident, là, qui était très. Alors, on rigolait pour l'amour.
Oui, mais il y avait ça plus le harlequin plaqué là-dessus.
Alors, voilà, le harlequin plaqué là-dessus, mais quand en plus c'est doublé de cette espèce de manque de moralité, là, au sens où Godard disait le travelling, c'est affaire de morale, c'est vraiment ça, quoi. On peut pas tout montrer n'importe comment. Et là, il le montrait allègrement, comme si. Et en effet, et puis il avait le contrepoint. Joyeux, de l'amour, donc tout ça était affreux.
Plus des couchers de peine d'amour perdu.
Plus des couchers de soleil.
Plus des couchers de soleil, sans le sang.
Mais c'est quand même un film très précieux. On a besoin de choses comme ça de temps en temps, parce que quand ça va sortir en DVD, on va pouvoir faire des soirées hilarantes avec des copains.
Je suis pas sûr. Tu sais qu'à la troisième fois, les tripes sont
à part Jean Reno.
Ah, oh, mais tous.
Oui, il disait pécho.
Il y a aussi les scènes où il se lave les dents.
Ah oui, avant de faire l'amour, il faut se brosser les dents. On a l'impression d'un truc médical là, pour le fluor.
Ah, mais c'est ça, hein.
Et derrière, un rideau de perles. Voilà. Alors, ça s'appelle les préliminaires, mais moi, je pensais que c'était des. Il n'y avait pas besoin de brosse à dents hein, pour ça. Et tout est ridicule. Bah,
tout dépend de l'usage qu'on en fait.
Ouais. Je te remercie. L'amour plus fluor que la guerre, comme on dit. Mais quand on voit ce que fait Sean Penn, à la fois des sentiments et de l'actualité dramatique de ces pays-là, ce type est tombé sur la tête, parce qu'il a fait des bons films, je ne sais pas ce qui lui est arrivé.
Ouais,
ou
ça,
alors, c'était au moment de sa séparation avec Charlize Theron, alors soit il a voulu couler sa carrière par méchanceté, soit il a voulu lui faire un cadeau, mais là je comprends qu'elle soit partie, parce que elle va perdre son contrat avec Dior si les dirigeants de la marque vont voir le film, hein, c'est terrible, terrible. Mais on entend quand même Charlize Theron dire « Avant de rencontrer Miguel, j'étais l'idée de moi-même ». Bah dis donc, on a envie de lui dire, faut te soigner.
Alain, je peux pas en parler, je voudrais en parler, mais je peux pas. Oui, j'ai pris des résolutions. Tous les ans, au mois de janvier, je prends des résolutions. J'ai promis de ne pas être méchant, alors je ne parlerai pas du film.
Donc tu nous annonces que tu quittes l'émission, alors.
Non, parce que j'ai...
Comment tu vas faire pour la suite?
J'ai pris la résolution de ne plus être bêtement méchant.
Mais on peut être intelligemment méchant, non.
Pas avec ce film.
Donc tu veux pas en parler?
Avec ce film-là, on est forcément bêtement méchant.
Non, mais je crois qu'Alain, constatant que le film a démarré plutôt bien, malgré l'assassinat critique général...
J'étais étonné que le Dalida...
Notre travail ne sert à rien.
Il a eu du succès, oui.
Alors tu peux y aller.
The Last Face, le Sean Penn... Pas de réaction, non. Dalida, tiens, le film de Lisa Azuelos consacré pour les 30 ans de sa mort à l'idole d'Eric Neuhoff, un biopic inspiré des mémoires de son frère Orlando avec l'italienne Sveva Alviti dans le rôle titre. Elle a l'accent. Elle est assez jolie d'ailleurs, elle a l'accent. Elle n'a pas le strabisme, ça c'est une... un film qui commence par une scène d'anthologie. Voilà pour le coup que je me repasse de temps en temps. Dalida, elle est nue, couché avec son jeune amant et chanteur italien Luigi Tenco, et il lui explique que ce qu'est pour Heidegger l'être pour la mort. Et là, Dalida, toujours à poil sur le lit, je ne suis pas d'accord avec Heidegger. Moi, je crois à l'être pour l'amour. Bref, pendant 2 heures, encastré par 2 suicides de la star, l'un raté, l'autre malheureusement réussi en 87, Lisa Azuelos déroule avec beaucoup de flashbacks la vie de Dalida, ses traumatismes, ses amours, ses regrets, ses dépressions, ses paillettes, ses chansons, avec un truc particulier, c'est que chaque chanson est intégrale. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas un petit morceau, c'est l'intégrale. Il faut l'écouter entièrement. Faut supporter, quoi. Avec Jean-Paul Rouve en Lucien Maurice, Nicolas Duvauchel en Richard Chanfray, alias Comte de Saint-Germain, Patrick Timsit en Bruno Cocatrix, Vincent Pérez et Eddy Barclay, j'en oublie un peu. Et oui, et Ricardo Scamarcio, c'est donc Orlando, le frère, qui dit « Je suis fier et heureux du résultat ». C'est ce qu'il dit dans le dossier de presse. Ça, tu vas en dire du bien, alors?
Ah bah oui, naturellement. Mais c'est vrai, d'ailleurs, j'ai beaucoup de considération pour Lisa Azuelos. Parce que la metteuse en scène, qui a fait 2 ou 3 films plutôt pas des sommets d'intelligence, mais enfin, elle a de la vie. Ah
bah, il faudrait savoir ce que tu veux là. Soit on dit du bien de manière forcée.
Je ne vais pas en dire beaucoup de mal de ce film, mais je trouve que les films qui ont de la vie sont toujours plus intéressants que les films que plus solennels, les films d'Heidegger, quand ils n'ont pas de vie.
Qui ont de la vie.
Simplement, oui, il y a une... Truffaut disait... Un film énergique et idiot sera toujours plus intéressant qu'un film intelligent et mou. C'est une règle absolue du cinéma.
On pourrait revenir au film dont...
Non, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire que Azuelos est une dame qui donne beaucoup de vie à ses films et du brio, qui a fait 2 ou 3 films avant, qui sont très amusants. Et alors celui-là, il y a des très bons passages. Simplement, il y a une chose... Vous savez, les films sur le music hall, c'est des larmes dans du champagne. Enfin, les mélodrames sur le music hall. Et là, il y a beaucoup de larmes. Mais ce qui manque, paradoxalement, c'est le champagne. C'est quand tu dis qu'il y a énormément de paillettes, c'est pas tellement vrai.
Si.
C'est surchargé. C'est un film extrêmement surchargé aux limites du kitsch, mais il n'y a pratiquement pas de concert. Quand il y a un concert, il y a une seule personne.
Si, t'as l'Olympia, t'as...
Oui, mais il n'y a pratiquement pas la musique. Il n'y a pas le truc qu'on voit.
Il n'y a pas la musique, il y a la chanson intégrale.
La chanteuse est totalement isolée, ne voit pas le public. Enfin, ce n'est pas un truc filmé. Quand on voit un film sur le music hall, c'est par exemple Une étoile est née. Dans Une étoile est née, il y a une stylisation.
Mais c'est pas la même époque. Certain...
Et il y a énormément de champagne. Et c'est pour ça que l'on pleure. Il y a des ballets, il y a des choses comme ça. Et là, c'est tout le temps pleurnichard. Mais à part ça, je trouve que c'est pas spécialement mauvais.
Sophie.
Alors moi, j'ai pas fait de vœux de gentillesse, donc je vais dire tout le mal que je pense du film parce que je le trouve très mauvais. Et je trouve que c'est un film qui, elle veut trop en dire, elle veut surtout trop expliquer. L'intérêt,
oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a un traumatisme, une
oui,
scène.
Enfin, c'est,
un traumatisme,
c'est ridicule. Une elle scène. A une façon, en fait, des clés psychologiques en plus énormes avec le père, avec les gamines qui se moquent d'elle quand elle est petite. On a l'impression que tout vient de là. Alors, je veux bien que tout vienne de l'enfance, mais quand on fait un biopic, quand on fait un portrait, on fait des choix et surtout, on n'essaie pas d'expliquer tout parce qu'on peut pas l'expliquer tout. Alors, la seule vie, en effet, dont, c'est peut-être ça dont parle Alain, c'est que l'actrice, elle, qui s'appelle Eva Alviti, elle est vachement bien. Elle est ni dans la ressemblance, ni dans mais elle réinvente une sorte de Dalida assez vivante et assez vraie. Mais à côté de ça, on a une succession de vignettes, on a une succession. C'est un kaléidoscope cette femme parce que c'est vrai qu'elle veut être à la fois une mère de famille, en même temps elle veut être aimée par les hommes, en même temps elle veut être aimée par son public. Elle veut tout à la fois. Mais du coup, comme elle veut tout mettre, on a une succession de vignettes et comme elle prend jamais le temps de filmer, rien n'advient jamais. Donc on n'est jamais ému. Alors de temps en temps, alors elle met la chanson intégralement. Mais la scène, elle n'est jamais intégrale. Donc,
oui,
du coup,
elle peut être ridicule. Il allait avoir 18 ans, elle est à la fenêtre
oui,
et on voit sous la neige
voilà.
partir le garçon.
Elle fait correspondre beaucoup trop la chanson à l'illustration qui suit. Quand on a la scène, on a la chanson en même temps. Et en même temps, cinématographiquement, il n'y a pas de matière narrative, je ne sais pas comment le dire. Elle fait advenir aucune émotion. Enfin, on devrait être ému, c'est quand même des chansons qui, pour certaines, sont émouvantes.
À la fin.
Elle a un destin tragique, elle est rattrapée en effet par des choses terribles, par des amours, ces types qui se sont tous suicidés les uns après les autres, enfin c'est quelque chose d'assez horrible, et on n'est jamais bouleversé, c'est quand même, ça ne va pas du tout quoi. Bon, donc je trouve que c'est un catalogue ce
c'est
film.
Vrai qu'on connaît la fin, on n'a pas besoin de Pierre Murat pour savoir comment
non.
ça se termine. Michel Simon.
C'est difficile à juger parce que apparemment elle a des millions de fans dans le monde entier.
Apparemment, bien sûr, elle a pourquoi
oui, elle a donc des millions de fans, et c'est évident que les millions de fans seront très heureux de réécouter comme tu le disais, intégralement, toutes ces chansons. Donc y a, ça, c'est à mettre à l'actif du film pour les admirateurs. Moi, je considère plutôt que c'est une piaffe du pauvre, que je ne suis pas du tout un admirateur.
Nos auditeurs apprécieront.
Oui, peut-être.
Après les loups, je vais avoir les dalidiens.
Voilà. Donc c'est une sorte de roman photo. C'est une sorte de roman photo sur la tyrannie des hommes vis-à-vis des femmes, ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, souvent, avec ces trois maris qui se succèdent. Moi, j'ai trouvé le film vraiment sans aucune invention, comme disait Sophie, il n'y a pas de moment de véritable émotion. Et puis, je m'insurge contre les articles des confrères qui disent tout de suite, c'est un marronnier, les biopics, c'est un mauvais genre, le biopic, c'est par définition mauvais, que ce soit Citizen Kane ou Bird ou l'affaire Mattei, etc., Man on the Moon, il y a une succession, Ed Wood, d'extraordinaires biopics, c'est pas du tout un genre mineur, c'est un genre magnifique, quand il est traité par des vrais cinéastes. Ici, c'est vraiment l'exercice minima.
Il y a même un Van Gogh qui était pas mal.
Voilà, il y a un Van Gogh, et bien d'autres. Donc là, c'est vraiment un exercice minimum. Elle fait son boulot, elle aligne les séquences. Je sauve tout de même l'actrice, Eva Alviti,
oui,
qui est vraiment très bonne. Et encore une fois, ceux qui adorent Dalida, vont être contents d'entendre toutes ces chansons.
Toi, tu étais très disco, je me souviens, dans ces années-là.
Elle n'est pas si disco que ça.
Non, mais elle a eu sa période disco.
Un peu, oui. Mais maintenant, après ça, on attend le biopic de Mireille Mathieu, où on la verra au lit en train de dire « Althusser et moi avons des divergences », avec l'accent du midi, en plus, parce que tout le film est comme ça. Quand on a une réplique « Je ne suis pas d'accord avec Heidegger » dès le début...
C'est le début, hein.
Oui, mais
c'est
tout est à l'avenant. Hein. Et encore, ça baisse
petit à petit. Ça place le film assez haut.
Oui, parce que le film, en gros, c'est un tube, un suicide. Et quand je dis tube, c'est soit un tube de barbiturique, soit une chanson à succès. Alors, et tout est comme ça. Et en même temps, c'est bourré de trous, de lacunes. Il n'y a pas du tout la période où elle était l'égérie, gay, de tout
y a pas
les homosexuels à la mode. Il n'y a pas Mitterrand,
Ça a pas Mitterrand, c'est vrai.
Oui, mais
c'est
très on évoque Delon.
On évoque vaguement Delon, et du coup, on se tape la chanson parole en intégralité. Et le film est quand même très, très plat. Mais j'avoue que, si vous voulez, moi, je suis pas exactement le cœur de la cible, hein, Dalida. J'ai jamais eu un disque de Dalida. La seule fois où j'ai écouté une chanson en entier d'elle, c'était pendant le film, parce que j'étais obligé.
Bon, Dalida, Lisa Azuelos, pas de réaction. C'est une réaction dans le public en haut du studio Sacha Guitry.
Bonsoir, je voudrais sauver un peu le film quand même, parce que je vous trouve un peu vache. Je l'ai vu hier soir. Je suis pas un grand fan de Dalida, mais mon père, qui était pas tout jeune, qui était pas un yéyé, lui était un grand fan, il avait tous les disques. Et je trouve quand même que c'est un film où on découvre cette personne. Moi, je connaissais pas sa vie privée, je savais pas son parcours. L'histoire avec son père est quand même très émouvante. Alors, son père, il y avait forcément la petite fille qui était là, à l'école, etc. Enfin, voilà, je trouve que c'est quand même un bel hommage à cette femme. C'est vrai que cinématographiquement, il est pas extraordinaire. Néanmoins, on passe un très bon moment à écouter ce film.
Merci. Merci pour votre courageuse défense et illustration de ce film. On passe du disco au jazz avec Born to be Blue, premier film du Québécois Robert Boudreau, moins d'ailleurs le biopic, pour le coup, que le portrait à un moment très précis de sa vie du génial Chet Baker, incarné ici. Et moi, je trouve de manière assez convaincante par Ethan Hawke. Ce moment, c'est l'année 1966, bousillé par l'héroïne. La mâchoire défoncée par des dealers, le trompettiste junkie décide, il faut dire sous l'influence, en tout cas dans le film, de sa compagne, qui est jouée par Carmen Ejogo, de ne plus toucher à la drogue. Et il va revenir lentement, non sans mal, je parle des lèvres, à son instrument et puis au studio. Et même, il envisage de se produire dans un fameux club new-yorkais, le Birdland, devant Miles Davis et Dizzy Gillespie. On n'apprend pas grand-chose, il faut dire, dans ce film qui alterne la couleur et le noir et blanc. Mais, encore une fois, moi j'ai été très ému par le visage que Hawke donnait à Chet Baker. Je rappelle que le vrai Chet Baker est mort à Amsterdam. Ça, on ne le voit pas du tout dans le film, bien sûr, en 1988, et qu'il n'avait que 58 ans. Et à la fin, je signalerai d'ailleurs un livre qui apparaît bientôt, qui est bien fait en février sur Chet Baker. Michel.
Voilà, alors, voilà une réponse à Dalida. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Sophie tout à l'heure, c'est un film où il y a des moments de respiration, une grande sensibilité, je trouve. L'interprétation de Ethan Hawke est remarquable, je trouve formidable. On l'a vu dans énormément de films, dont les films de Richard Linklater, comme Boyhood, etc. Il y a des choses un petit peu convenues, peut-être, par exemple, l'admiration des musiciens noirs. Et on attend qu'il y ait une consécration du musicien blanc. Il semblerait que ce soit pas tellement la vérité historique. Et d'ailleurs, le film est aussi en partie imaginaire. Il y a des choses qui sont inventées.
Mais c'est une période
Il y a ce film que l'on tourne sur lui, qui n'existe pas, qui n'a jamais eu lieu.
On devait tourner à ce moment-là un film sur lui. Hein. Il a accepté de le faire.
Le film et les mâchoires, tout ça, c'est vrai.
Le film n'a jamais été fini.
Mais il n'a jamais été fini.
Après, c'est autorisé des choses, c'est vrai.
Mais en tout cas, je trouve qu'il capture vraiment, il saisit vraiment l'esprit d'une époque. C'est un homme qui est hanté par ses démons et cette autodestruction. Bon, c'est un peu aussi un cliché de les vies d'artistes. C'est un premier film très talentueux. En tout cas, c'est pas du tout une approche conventionnelle.
Par exemple, c'est un certain geste qu'elle reconnaît qu'il a replongé dans la drogue et c'est montré de manière très très délicate. C'est pas appuyé. Alors que sur ce thème-là, on aurait pu craindre le pire.
Non, c'est une très bonne surprise.
Oui, je suis d'accord avec Michel. Je trouve que c'est un film qui est plein de charme, qui est mélancolique et qui est très jazz, finalement, avec une espèce de lenteur comme ça, et qui doit beaucoup au charme de Ethan Hawke, en effet, qui le joue comme un petit enfant. C'est ça qui est poignant, quoi. Il est un type qui a 45 ans et il le joue comme un bébé, qui a besoin de sa mère, qui a parfois même une petite voix qui murmure des choses. Enfin, il est d'une fragilité extraordinaire. Et ce que j'aime bien, c'est que... Alors, c'est vrai, Michel, tu as raison, il y a un peu le côté cliché de l'artiste. Et en même temps, c'est très fort dans le film, cette façon qu'il a de rappeler qu'un artiste souffre, y compris dans son corps, y compris parce que ça fait mal de jouer de la trompette. Alors, bien sûr, ça fait d'autant plus mal qu'on se fait casser la gueule et qu'on a les mâchoires et plus de lèvres et les mâchoires cassées.
Dents, oui.
Néanmoins, il y a quand même, je pense qu'il a pris cette période aussi, et c'est intéressant comme choix de prendre la période où il ressuscite d'une certaine manière, parce que justement, ça part de la d'une souffrance physique terrible, et pour y arriver, il en passe par ça. Donc il y a la souffrance de l'âme de l'artiste, parce qu'il y a toujours l'idée qu'on doit payer son génie, sa grâce ou son talent par, en, alors il le paye par la drogue, mais il le paye aussi de cette manière. Donc le film est intéressant parce qu'il passe par ce, par cette souffrance physique aussi.
Alain, qui est très jazz.
Oui, c'est un, moi je trouve que c'est un beau film. J'ai appris des choses dedans, en particulier, ça je sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais ses parents, son père, qui est un personnage assez terrifiant, c'est un paysan de l'Oklahoma, qui très réac, qui joue du banjo, qui l'a apparemment initié à la trompette, mais pas à cette trompette-là, et qui lui dit « Jamais je n'ai sali le nom de Baker ». C'est des scènes terribles. C'est un film qui est d'une immense tristesse, il faut dire. C'est vraiment d'une immense tristesse, qui manque peut-être aussi un peu de champagne, je dirais, parce que le jazz, c'est quand même aussi un peu de champagne.
Tu fais un début d'année très alcoolique.
C'est-à-dire, je le dirais, non, c'est pas ça, mais c'est vrai. Je le dirais, lorsque vous écoutez Chet Baker, vous
le jazz, c'est pas champagne.
Chet Baker commence toujours ses phrases par des notes basses qui sont feutrées. Et le film est admirablement feutré. Ces notes-là sont magnifiquement faites. Ensuite, il grimpe, sa trompette grimpe et devient absolument céleste dans une sonorité divine. Et ça, le côté céleste, on ne l'a pas. C'est ça que j'appelle le champagne. Et ça, on ne l'a pas dans le film, c'est tout, on ne l'a pas.
Éric ?
Bah, c'est un film assez cool au sens musical du terme. Très jazz, il y a... un côté feutré, effectivement.
Ils enregistrent d'ailleurs un moment de
oui, dans, cool dans un studio.
Oui. Et c'est Ethan Hawke qui chante lui-même, ce qui est assez courageux. Mm-hmm. Et c'est un acteur vraiment excellent.
Lui. Oui, alors que Dalida, je reviens en arrière, c'était du playback. Hein.
Oui, mais c'était pas le pire défaut.
Il devait faire le rôle déjà, hein, d'ailleurs,
De Dalida.
De Chet Baker pour Linklater.
Il aurait été mieux.
Pour Linklater.
Non, il est très très bon. Là. Et puis ce mélange de couleurs et de noir et blanc, et ce choix d'un moment de vie, de reconstruction, là, à la fois physique, mentale, c'est pas idiot parce qu'on n'a pas besoin de savoir toute la vie des gens. Et là, on s'aperçoit que l'art, c'est aussi une destruction, c'est aussi une faille, une fêlure. C'est que pour devenir génial sur scène, il a besoin de son héroïne, c'est comme ça, et il finit par l'accepter. Et il faut aussi signaler la performance de l'actrice, qui est une sorte de muse de Jiminy Cricket, qui, dans un regard, fait passer tout l'alphabet des sentiments, ouais. Et en plus on a la musique, ce qui ne gâche rien, et pour un premier film, c'est une belle réussite.
Le premier film donc de Robert Budreau, c'est Born to be Blue, c'est sur Chet Baker, dont paraît au Castor Astral, ce sera le 9 février, Chet Baker, le clair-obscur, par Noël Baleine. Et puis si vous avez l'occasion de revoir chez vous autour de minuit de Tavernier, ou Le Bird de Clint Eastwood, vous aurez fait plein des bons films sur le jazz. La communauté du Danois Thomas Vinterberg, le réalisateur de Festen, désormais bien éloigné du Dôme 95, qui depuis, faut dire Festen, n'avait pas fait de grands films. Cette communauté...
Non, mais il avait fait l'adaptation de Thomas Hardy, qui était un beau film quand même. Hein.
Ouais,
c'était beau,
ouais,
ça.
Oui, je maintiens. Cette communauté, comme il y en avait tant à l'époque, enfin, Michel les a bien connus, remonte aux années 70. Tout commence par la visite de la vaste maison dans un quartier chic de Copenhague, où a grandi donc le personnage, Eric, un prof d'architecture, qui est Ulrik Thomsen. Eric est marié à la présentatrice du 20h de la télé danoise, contrairement à notre Neuf, et c'est Trine Dirolm, cette comédienne qui a eu le prix d'interprétation à Berlin l'an passé. Et ils ont une fille de 14 ans, même très androgyne, Freja. Et après avoir hésité à vendre la belle maison, le couple décide de s'y installer, mais à la condition d'y fonder une communauté de colocataires. Je ne vais pas faire le détail parce qu'ils sont assez nombreux. C'est en gros un peu comme si je rassemblais dans une maison tous les critiques du Masque et la Plume et qu'il fallait que je vive avec une communauté qui lorgne gentiment vers l'amour libre, mais dont Eric va évidemment bouleverser l'harmonie en craquant pour une de ses étudiantes, pour une jeunesse, infidélité qu'Anna décide en apparence d'accepter pour sauver son couple Évidemment, je ne vais pas en dire davantage. Film totalement choral, comme le titre l'indique. Je ne suis pas sûr qu'il fallait y ajouter comment dire, un suspense autour de la vie menacée d'un petit garçon. Mais bref, en tout cas, disons qu'il m'a déçu en bien, ce Thomas Vinterberg. Eric.
C'est un peu la tragédie de l'immobilier en Scandinavie, là, c'est... Comment faire quand on hérite d'une maison trop chère pour soi, trop grande
belle
pour
maison,
un couple
belle
pas
maison.
Mal, un peu délabrée. Alors du coup, faut avoir...
c'est ça le charme de la maison.
Oui, mais il faut faire venir des colocataires. Alors il y a toute une série d'entretiens d'embauche comme un examen pour savoir si les gens vont pouvoir tenir le coup, être acceptés. Et ça se passe énormément à table, comme dans Festen, mais il y a beaucoup moins de rebondissements, beaucoup moins d'enjeux. Et à la fin, il n'y a pas l'explosion qu'il y avait dans Festen. Et cette histoire de communauté, de liberté sexuelle, de gauchisme danois, tout ça pour arriver en gros à Bobonne est jalouse. Parce que,
Non,
je trouve qu'on perd beaucoup le groupe pour se concentrer sur ce couple et la jalousie bourgeoise de cette fille vis-à-vis de son mari qui couche avec une de ses étudiantes de 24 ans, qui n'est pas mal d'ailleurs, mais c'est quand même très rikiki.
Sauf qu'elle fait une révolution, elle l'accepte quand même.
Enfin, elle l'accepte.
Elle craque à la télé.
Elle n'a pas tellement le choix puisque tout le monde a voté pour. Alors, c'est comme au masque, on devrait voter pour les films. Ce serait beau. Non, le film est un peu plat. Brouillon et décevant, j'ai trouvé. Il y a une bonne réplique à un moment donné, c'est quand la jeune étudiante débarque au milieu de tout le monde. Il y a un des invités, des colocataires, qui lui dit « Toi, tu es un film d'amour français ». Et j'ai toujours pas compris ce qu'il voulait dire par là.
Bah si, c'est clair.
Ah bon, c'est quoi?
C'est une évocation d'une héroïne d'un film d'amour français, plutôt que danois.
Ah bon.
Voilà. Michel.
Oui, c'est-à-dire qu'on retrouve tout de même Vinterberg depuis quelques films. C'est-à-dire qu'il avait fait ce coup publicitaire qui était le Dogma avec son ami Lars von Trier, qui est une astuce parce que ça n'a jamais eu de suite. Ils ont abandonné complètement leur principe.
C'était très théorisé.
Théorisé.
Il y a Jean-Marc Barr qui a obéi, le pauvre.
C'est très théorisé, ça les a lancés. Et après, Vinterberg s'est un peu a disparu du paysage avec des films médiocres. Mais c'est vrai que La Chasse, qui était un fait divers, et l'adaptation... Loin de la foule déchaînée dans le film en costume, c'est même des films assez réussis où on ne voit pas tellement une personnalité. Là, il retrouve un peu l'esprit de Festen. Je trouve Eric sévère parce que je trouve qu'il y a une vitalité tout de même dans ce portrait de groupe, ce portrait de personnage enfermé dans une maison.
Qui montre bien l'atmosphère des années 60.
Absolument,
post-68,
il reconstitue
quoi.
Très bien ces communautés. J'ai trouvé ça vraiment. Les comédiens sont très bons, ce prix d'interprétation féminine totalement justifié. Donc je pense aussi que c'est normal qu'il y ait un portrait de groupe et qu'ensuite on met l'accent sur ce couple et la jalousie, etc. Ça m'a pas paru cliché, ça m'a paru très bien, surtout formidablement interprété, avec une belle énergie. Donc je pense pas que c'est un grand film du tout, mais on est heureux de retrouver quelqu'un qui a réussi à revenir un peu à son style qui était montré dans Festen.
Puis la semaine quand même de The Last Face et de Naissance d'une Nation, on prend quand même, non Sophie?
Oui, mais moi je prends pas.
Tu prends pas non plus?
Non, j'aime pas du tout.
Je sais pas, j'essaie de sauver quelques films ce soir, parce que sinon on va pas y arriver.
Franchement, j'aime pas du tout le film. Je le trouve à la fois extrêmement théorique, extrêmement démonstratif, et en même temps très opaque, je sais pas très bien ce qu'il veut nous dire. Parce que finalement, il dit quoi? Il dit qu'au fond, le modèle de l'adultère bourgeois est finalement un schéma, tout ce qui est indémodable, impitoyable, qui se reproduit y compris quand on a des idées larges, et y compris quand on veut aux communautés, et y compris quand on veut y échapper. Bon, peut-être, c'est ça qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il dit de la communauté? Lui, il a vécu en communauté quand il était petit. Est-ce qu'il en dit du bien? Est-ce qu'il en dit du mal? Et je trouve qu'il est très opaque, il n'est pas clair, il est filandreux là-dessus, et il n'est pas très intéressant. Je trouve que ce qui fait des personnages, d'abord ces personnages, je les trouve pas du tout attachants. Les autres personnages, les secondaires, dont tu dis que c'est un film choral, c'est pas du tout un film choral. Mais les personnages secondaires.
Il y a les parents de ce petit garçon qui va
alors,
pas bien.
Il fait deux choses. Avec les personnages qui n'ont que des trucs décoratifs, c'est-à-dire qu'il leur fait à chacun une caractérisation qui est complètement artificielle. Il y en a un qui a envie d'étreindre tout le monde. Il y en a une autre qui couche avec tout le monde, il y en a un autre qui pleure tout le temps. Et puis une fois qu'on a dit ça, on les voit pas tellement vivre et on se recentre sur le couple, qui est encore une fois pas très attachant. Donc finalement, il n'en fait rien. Et les enfants, ce qu'il fait avec le petit garçon, et tu l'as dit, là, c'est horrible.
Ça, je trouve ça un peu...
Ça, c'est dégueulasse. Oui, franchement, c'est dégueulasse.
Très mauvais goût.
Parce qu'après, franchement, la vie repart comme si...
Non, c'est pas ce qui va se passer.
Tu dis toi-même, c'est pas un suspense. Bon, bref. Je n'ai rien dit,
non.
Jérôme. Je n'ai rien dit. Ce qu'il en fait, c'est nul. Ce qu'il en fait, c'est nul. Donc, on se retrouve finalement avec un film avec un film qui est complètement à la fois théorique et vide. Et je ne le trouve pas intéressant, je ne le trouve pas attachant, je le trouve... Bon. Non, je le trouve vraiment pas bon, ce
Alain.
Film.
Je ne l'ai pas vu. J'étais en train d'essayer de me rappeler ce que j'allais en dire, et je ne l'ai pas vu.
Il fait un début d'année assez exemplaire.
Ah ouais, mais si tu ne vois pas les films,
tu n'aurais pu en parler.
Non, mais Sophie, les contradictions entre l'utopie et la réalité, c'est un sujet riche, entre les gens qui veulent créer
son modèle,
une...
son modèle de tromperie et tout, c'est...
On a beau avoir des théories sur la société, il faut tout changer, il faut tout partager, et en même temps, les résistances de l'individu face à des utopies. C'est un beau sujet.
Oui, mais il le traite mal, son beau sujet. D'ailleurs, à un moment donné, elles viennent le voir, les deux femmes, elles viennent le voir, ou la petite jeune vient le voir, et dit, oh, vos problèmes de bonne femme, vous m'emmerdez. Et on a envie de dire, bah oui, c'est vrai, elles nous emmerdent avec leurs problèmes de bonne femme. Tu vois, il y a une façon de traiter ça. Même moi qui suis une femme, j'avais envie de dire, mais elles nous emmerdent, quoi. Bon. Je suis désolée, mais je trouve vraiment que ce film est pâteau, quoi.
Non, mais je crois qu'on l'a compris. que tu n'avais pas tellement aimé ce film. La communauté de Thomas Vinterberg et des réactions sur ce film, non. Eh ben, on va essayer Jamais Contente. C'est pas un film sur Sophie Avon, c'est seulement après Peau Neuve et Mister V, le troisième long métrage d'Émilie Deleuze, adapté du journal d'Aurore de Marie Desplechin, avec la toute jeune, que moi j'ai trouvé excellente, Léa Magnien, avec aussi Patricia Mazui, la réalisatrice de Saint-Cyr, qui fait ses débuts d'actrice, Philippe Duquesne et la toujours impériale. Catherine Yégel, là, qui est dans le rôle de la grand-mère d'une insupportable gamine de 13 ans, Aurore, donc, c'est Léa Magnien, genre cactus, qui torture sa mère, donc Patricia Mazui, qui nargue son père, c'est Philippe Duquesne, qui défie son prof de français, c'est Alec Lutz, et qui va devenir, tenter de devenir la chanteuse d'un petit groupe d'ados rockers. Donc c'est ouvertement un teen movie, avec un épilogue qu'on va pas raconter, un peu appuyé. Ça, est-ce qu'il t'a touché ce film?
Beaucoup.
Ah ben voilà.
Ouais, j'adore ce film, c'est dans un registre minuscule, dans un registre très difficile finalement, parce que c'est un film de genre en soi, l'adolescente, le portrait d'adolescente. Et c'est, je trouve qu'elle a la distance parfaite, Émilie Deleuze. Elle est pas par-dessus son personnage à dire au public, vous voyez comme elle est emmerdante ou rigolote ou tout. Elle est avec elle. Et la petite, tu l'as cité, Léa Magnien, elle est formidable aussi, avec beaucoup de sérieux. Elle est vraiment dans son truc. Et je trouve qu'elle arrive à dégager, du coup, Émilie Deleuze, un portrait d'une petite gamine comme ça, qui est à la fois péremptoire et démunie. Et c'est aussi un film sur la famille. Les parents sont formidables, tu les as cités, tu as bien fait parce que, évidemment, la grand-mère, le prof aussi.
Le prof de français est formidable.
Le prof d'Alex Lutz est très bien, mais je trouve que cette famille composée par Philippe Duquesne, qui est génial, et Patricia Mazui, qui est génial aussi, et évidemment la grand-mère Catherine Yégel, ça fait vraiment, c'est juste, à l'oreille, c'est magnifiquement juste. Alors encore une fois, c'est un registre intime et minuscule, mais je trouve ça formidable.
Et c'est, faut-il le rappeler, la fille de Gilles Deleuze, Émilie Deleuze, dont les deux premiers films sont très différents.
Très âpres. Hein. Très âpres.
Le premier était formidable, il y avait une sorte de chorégraphie d'engin de... Vous vous souvenez de ça, de ce premier Peau Neuve ? Le deuxième était sur un cheval. Michel ?
Oui, moi je trouve qu'on n'a pas du tout dans la presse donné un écho véritable à ce film qui méritait vraiment
absolument.
Tous les
éloges. Absolument. Il a même été, on peut dire, négligé, voire
traité en mineur, alors que c'est un film peut-être mineur, mais que moi j'ai trouvé absolument réussi. D'abord, ce portrait d'une sorte de Zazie qui se trouve à la fois nulle et en même temps formidable, elle alterne.
Elle ne se croit pas vraiment formidable. Hein.
Mais et qui est toute petite aussi.
Elle alterne entre des moments de critique d'elle-même et en même temps d'exaltation. Quand elle démolit la princesse de Clèves, par exemple, ça fait plaisir à Sarkozy, devant toute sa classe, c'est plein d'idées de gags. L'actrice, la jeune comédienne Léna Magnien est formidable. C'est un petit film, mais je trouve d'un charme. Je l'avais vu au Festival de Berlin, la salle était en délire.
Et avouez que Patricia Mazui, qui n'avait encore jamais...
Elle est géniale.
Formidable.
Elle est formidable.
Les adultes sont formidables. Ouais. Elle, encore une fois, la petite est absolument étonnante. C'est rapide, c'est vif, c'est plein d'entrain. Moi, j'ai
la
trouvé
fin était mouvante,
Sans être prétentieux.
Sans
être mièvre.
Eric.
J'en aurais sûrement très bien parlé, mais il aurait fallu que je le voie d'abord.
Ton journal a dit du mal d'ailleurs. Hein.
C'est vrai?
Oui. Alain.
Ah, moi je l'ai beaucoup aimé aussi, je suis absolument de votre avis. Je ferai une toute petite réserve, c'est qu'il est quand même très prévisible. tout ce qui se passe, on se doute de ce qui va se passer. Mais sinon, le charme, c'est une chose qui est devenue tellement rare au cinéma.
Oh, dans la vie même.
Peut-être même dans la vie, oui. Enfin, c'est un film charmeur et c'est l'adolescence des hérissons. C'est très, oui. Très agréable. Je vais juste rajouter des choses qui sont même des choses vues et entendues. Il y a une chose merveilleuse, c'est que ce joli professeur de français lui recommande de lire Francis Ponge et elle dit quoi, Bob l'éponge. Et maintenant, il y aura continuellement des confusions entre ce personnage. Et elle finira par admirer Chat-Perché de Bob l'éponge. Mais ça va la sauver. C'est quand même très joli d'être sauvé par Bob l'éponge dans un film aussi gracieux.
Jamais contente, donc c'est le film d'Émilie Deleuze, d'ailleurs qu'on verra bientôt dans le documentaire que consacre Claire Simon au concours d'entrée à la FEMIS. Puisqu'elle est prof là-bas aussi à la FEMIS, et il y a plusieurs scènes où on la voit juger des prétendants à la FEMIS.
Elle était déjà dans le bois dont les
elle était dans le bois
où elle retournait à Vincennes.
De l'université ou... Vincennes. Ah oui, il y a Patricia,
dont son père
avait été l'un des grands profs. Concours.
Donc jamais contente, Émilie Deleuze. Est-ce qu'il y a des réactions? Non, sur ce film. Non, et ben on termine avec Corniche Kennedy de Dominique Cabrera, avec Aïssa Maïga, Lola Creton, Alain de Maria, Kamel Kadri, portrait de groupe, adapté du livre de Mélisse de Kerangal. Je crois que c'est le deuxième de l'année, adapté.
Il va y avoir un échange d'impôts.
On a eu Réparé les vivants. Bon. Et donc, portrait de groupe de ces ados désœuvrés qui, à Marseille, passent leur temps à faire des plongeons depuis la corniche Kennedy quand ils ne fréquentent pas la pègre sous l'œil des flics. Un petit côté fureur de vivre dans les calanques. Alors ça, c'est moi j'ai eu le sentiment que c'était vraiment à mi-chemin entre la fiction et le documentaire, sans que ça sache totalement choisir son genre. Celui-là, tu l'as vu, Eric?
Oui,
tu as daigné le voir, oui.
Oui, j'ai plutôt bien aimé. C'est une toute petite chose, hein, pas complètement réussie. Ça se veut un peu une fable à la Fontaine. Ce serait la bourgeoise et les deux voyous ou Jules et Jim à côté de la Canebière. Mais c'est un film de territoire. Ça se passe entièrement sur ces rochers.
C'est pas le premier d'ailleurs sur ces plongeons, si j'ose dire.
Oui, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'elle ne filme pas très bien les plongeons. On voit mal l'espace, on se rend mal compte. Il y a beaucoup de faux raccords. Le ciel qui change de couleur d'une image à l'autre. Et il y a une scène qui aurait pu être magnifique presque à la Fellini, c'est qu'ils décident un soir, tout en sachant qu'ils vont être arrêtés, de plonger avec des feux de Bengale. Et la scène là est complètement ratée. On a l'impression que c'est filmé dans une petite cave avec des pétards qu'on voit à peine. Et ça, j'ai regretté. Mais il y a une ambiance. Les jeunes acteurs qui sont pas acteurs d'ailleurs, et ça se voit, sont pas très bons. Lola Creton est épatante, elle en fille qui doit passer son bac.
Pas bon,
le personnage de la mère est moins crédible, et l'histoire policière qui est un peu nécessaire gâche un petit peu le côté huis clos. Mais si on n'avait pas eu ça, on aurait manqué à Aïssa Maïga, qui est vraiment épatante en commissaire.
Je trouve que les acteurs sont formidables. Ils sont justes. Ils sont que ce soit Alain de Maria ou Kamel Kadri qui jouent les deux copains les plus proches de Lola Creton. Moi, je les trouve extrêmement justes et très émouvants, et notamment Alain de Maria qui est un petit gamin franco-tunisien et dont la mère est bretonne, et dit-il dans le film, je ne sais pas si c'est la vérité, je le trouve adorable, je le trouve mignon en plus, enfin je ne sais pas, je le trouve vraiment...
Lola Creton plonge mieux que eux.
Non, on n'arrive pas vraiment à se passionner pour l'histoire.
Pas moi, je me suis passionnée pour ça, et si tu me donnes la parole. Oui,
je te donne la parole, tu peux même la prendre.
Je te remercie. Non, moi je trouve que c'est un film à la fois solaire et modeste. Il est modeste parce qu'il n'essaie pas non plus d'en dire beaucoup plus, et en même temps, je trouve qu'il est... C'est un beau portrait de jeunesse, et ce que j'aime beaucoup dans le film, parce que j'ai dit qu'il est modeste, et en même temps il a une vraie richesse, une vraie profondeur. Je trouve que Dominique Cabrera arrive à faire quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire, c'est-à-dire qu'elle fait cohabiter en même temps plusieurs niveaux de lecture, enfin plusieurs... On est à la fois dans du réalisme avec cette jeunesse dont elle filme, les choses qu'on le collectif, le goût de la provocation, le goût du risque, l'amour, des choses comme... Et même la mélancolie, tout ça. Elle est aussi dans un niveau évidemment métaphorique, parce que le plongeon, c'est évidemment le vertige de grandir, etc., et c'est très net, mais elle n'en fait pas des tonnes avec ça. Et il y a encore une autre dimension qui serait la dimension quasiment tragique, avec ce polar qui est en filigrane et ce paysage de la Méditerranée qui est limite même mythologique. Et je trouve que ces trois dimensions, elles sont très présentes dans un film qui est pourtant assez simple. C'est pour ça que je disais qu'il était modeste, mais qui est d'une luminosité.
Il faut rappeler que c'est modeste, c'est un petit film, c'est pas...
C'est pour ça que j'ai dit qu'il est modeste, mais elle fait cohabiter tous. Mais parce que c'est présent quand même, hein, la mythologie... de la tragédie, elle est là quand même.
Alain,
c'est un film qui est construit de façon à conduire vers une scène qui est d'ailleurs absolument magnifique, une espèce de scène de sacrifice don quichotesque entre deux gamins, c'est une espèce de Jules et Jim plus jeune et une gamine marseillaise, c'est très joli, c'est une espèce d'amour à trois. Et un sacrifice, c'est quand même, c'est un film assez mutique, et toute la partie des plongeons est quand même, il faut bien dire, un peu interminable.
Oui, Michel.
C'est un peu répétitif. Non,
d'abord, je te félicite, Jérôme, parce que là, on a la parité dans cette émission, il y a autant de femmes que d'hommes, et les femmes gagnent par chaos, c'est-à-dire que quand on voit effectivement The Last Face et Birth of a Nation, et qu'on voit les deux films dont on vient de parler, c'est-à-dire le Jamais Contente et ce film-ci, on a des films modestes, mais qui sont d'une extrême sensibilité. Et en particulier, moi, ce qui me frappe, c'est comment Marseille appelle le réalisme.
Oui.
Parce que ça commence avec Pagnol, Guédiguian, on a vu le Karim Dridi, c'est-à-dire que le soleil méditerranéen appelle la réalité. Et je trouve que comme Cabrera est une remarquable documentariste, elle apporte à ce film son expérience de documentariste. Moi, j'ai beaucoup aimé les scènes de plongeon. On ressent profondément le vertige. On a peur quand cette jeune fille se lance dans la mer. Ce qui est moins bien, incontestablement, c'est l'intrigue policière qui est pas très bien, ficelée. Elle est en filigrane. C'est vrai que c'est pas le centre du film, mais le film lui-même, ce groupe de jeunes garçons, de jeunes garçons à la Truffaut, etc. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un très très joli film.
Corniche Kennedy, c'est le film de Dominique Cabrera. Un conseil pour finir cette émission, on commence avec Sophie.
Un film qui sort mercredi, qui s'appelle Compte tes blessures.
C'est mercredi prochain.
Oui, qui est un premier long métrage d'un jeune homme qui s'appelle Morgan Simon. J'ai un jeune homme parce que je crois qu'il est assez jeune. Morgan Simon. Ça s'appelle Compte tes blessures, donc avec Kevin Azaïs. Et c'est une histoire de père et de fils entre lesquels se mêle la nouvelle amie du père. Et c'est une histoire à la fois très sensible, avec une tragédie larvée. C'est vraiment un film extraordinairement fort.
Attendez mercredi pour le voir.
Mercredi.
Le conseil de Michel.
Alors Jérôme, tu en as parlé à la dernière émission. Je voudrais tout de même attirer l'attention sur le livre de Thierry Frémaux, Sélection officielle chez Grasset, qui est un livre de 600 pages. Alors ce que je trouve passionnant, surtout pour le grand public, qui ne connaît pas toutes les arcanes d'un grand festival international, c'est en quoi consiste le travail d'un délégué général entre les voyages, les contacts,
la fabrique d'un festival.
La fabrique d'un festival, je crois que c'est unique. J'ai jamais lu ça d'aucun directeur de festival qui raconte vraiment par le menu. Alors c'est 600 pages effectivement, mais on a tous les détails sur une année de direction de Cannes.
En plus, il écoute le masque et la plume. Le conseil d'Éric.
Ça va avoir l'air redondant. Moi, ce sera un film qui sort mercredi. Lumière, point d'exclamation. Le film sur les frères Lumière
de Thierry Frémaux,
qui est vraiment quelque chose d'épatant, où on voit que la fameuse dichotomie Lumière-Méliès n'a aucun lieu d'être. Le côté, le géomètre et le poète, ils sont aussi poètes, inventeurs, c'est bourré de trouvailles sans arrêt. C'est une centaine de tout petits films qui durent à peine une minute, avec un commentaire à la fois instructif et facétieux de Frémaux. Et on s'aperçoit que les Lumières, c'est ce qu'il y a de plus nouveau à voir cette semaine dans les salles.
Le conseil d'Alain.
Alors, c'est encore l'Institut Lumière qui est l'éditeur, là, en l'espèce, d'un livre admirable qui s'appelle « Au travail avec Eustache ». L'auteur était le premier assistant...
C'est Luc Béraud,
Luc Béraud, oui, pardon, je ne l'ai pas dit, oui. Luc Béraud était premier assistant sur « La maman et la putain » et sur « Mes petites amoureuses ». Donc, il a vécu tout ce qui s'est passé et il a été très proche de Stache, qui est un homme totalement mystérieux, extraordinaire, enfin, qui sort un peu plus connu de ce livre. Et surtout, ce qui est très beau, c'est que c'est un travail sur la mémoire, sur les personnages, et c'est à la fois l'art et la manière qui raconte vraiment comment on fait un film. C'est formidable.
Espérons que ça permettra de ressortir enfin en DVD de La Maman et la Putain, qui est un film introuvable et invisible depuis des siècles.
Tous ces conseils, les livres comme les films, vous les trouvez sur le site de Du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Sophie Avon, Michel Simon, Alain Rioux et Éric Neuhoff. Pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sella, mais ce soir au Sacha Guitry à la technique, il y avait Claire Levasseur, Fabien Capel et Cécile Braque. La réalisation était de Didier Lagarde. Vous notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, c'est le jeudi 2 février à 20h. Au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma, l'autre à la littérature. Et notez bien également que la semaine prochaine, on parlera de théâtre, mais attention, à 21h15 et en direct, après la soirée électorale, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.